Salut à tous, bienvenue sur lematin.ch pour un nouvel épisode des podcasts de cette équipe. Cette fois au café avec, à la rencontre d'Ange Loza, le combattant chauffonnier qui milite dans l'UFC. À quel moment dans une vie on se dit, je vais aller dans un octogone et me battre avec des types?
Aucun. Je ne sais pas te dire. Moi, c'est arrivé vraiment très, très naturellement. À la base, moi, je faisais de l'athlétisme. Donc, j'ai toujours aimé les arts martiaux, j'ai toujours aimé les sports de combat, mais je n'ai jamais pensé à commencer un sport de combat, quel qu'il soit. Mais j'ai commencé à perdre la motivation pour l'athlétisme parce que les gens avec qui j'ai commencé, ils n'étaient plus très sérieux. Donc un jour, un ami m'a mis dans une salle de kickboxing et moi, j'ai pris naturellement goût en fait. Je me suis entraîné et les gens ils m'ont juste proposé de faire de la compétition. Mm-hmm. Et j'en ai fait, mais c'était très naturel. Donc il n'y avait rien qui a été forcé et j'ai vu que je me débrouillais plutôt bien. Je suis passé en pro et... les choses ont commencé à évoluer et moi, par la suite, j'ai commencé à me dire en fait, il y a moyen de faire carrière parce que j'évolue bien dans le sport, donc pourquoi pas passer au next level et voir si je peux faire la compétition avec le top niveau mondial.
Dans ta famille, il y a ta sœur qui a fait de l'athlé aussi, elle a bifurqué elle sur le basket, c'était obligatoire le sport dans la famille?
Non, c'est pas une obligation. On a toujours été des gens très actifs. Mes frères, ils ont fait du foot aussi, très bon. Donc, on a toujours aimé le sport. On a une famille sportive, donc je pense que c'est naturel et génétique. Donc, il y a rien qui a été forcé dans la famille. On n'a jamais forcé à faire du sport. Mes parents, ils ont toujours laissé faire un peu, choisir un peu ce qu'on voulait faire comme activité. Et je pense que le sport, c'est juste quelque chose qu'on dans lequel on veut exceller parce que on travaille dur.
Il y a quand même le MMA qui a une réputation, disons, sulfureuse, mais ça, c'est beaucoup pour les gens qui ne connaissent pas ça. Tes parents, te voir rentrer dans une cage, ça ne va pas être simple quand même.
C'est pas simple, non. Surtout dans mes débuts. Moi, quand j'ai commencé les sports de combat, je me rappelle que ma mère était totalement contre. Parce qu'elle se disait que moi-même, j'allais devenir violent et tout ça, alors que tout le contraire. Le MMA dans le sport en soi, les gens, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est qu'il y a énormément de discipline à avoir pour pratiquer ce sport. Et ça t'inculque aussi, tu t'apprends à avoir du respect. Et moi, je pense que tout cet aspect-là, il est beaucoup négligé et il est très peu mis en avant. Les gens, tout ce qu'ils voient, en général, bien sûr, c'est deux gars qui s'affrontent, qui se tapent dessus, mais c'est pas un combat de rue, c'est ça qu'il faut comprendre. Et que moi, pour ma part, je suis pas quelqu'un de violent, je dirais. Donc, je suis pas quelqu'un qui, dans la rue, va retranscrire ce que j'ai appris dans les sports de combat. Non, moi, le sport, c'est le sport. Ce qu'il y a en dehors, c'est ce qu'il y a en dehors. Donc, il faut savoir faire la distinction.
C'est la réputation de tous ces sports de combat, un peu. On se dit, le gars, il fait du karaté, il fait du jiu-jitsu, c'est que dans la vie, il doit être super violent, alors que non, c'est vraiment un canalisateur. Et tu... Après, toi, tu connais ta puissance, donc tu l'utiliseras qu'en combat, que dans l'endroit où il faut le faire. Ça, les gens ont fait à le comprendre.
Exactement. Et c'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est que moi, en étant plus jeune, j'étais quand même quelqu'un qui était très difficile à remettre en place, dans le sens où j'avais énormément d'énergie, donc c'était difficile de me canaliser. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un de très posé. Je pense que le sport m'a énormément aidé. Dans la vie de tous les jours, ça m'a aussi apporté une certaine confiance en moi. Et je pense que et je l'ai vu sur certaines d'autres personnes, notamment des jeunes. Je pense que ça peut aider à avancer dans la vie de tous les jours, d'être psychologiquement un peu plus fort pour les épreuves de la vie. Et je pense que on peut en fait le mettre en pratique pour tout ce qu'on fait dans la vie. En fait, ça peut nous aider pour tout. Le sport, je pense, c'est une thérapie. Je parle plus que du MMA, mais des sports qui sont aussi durs. Je pense que psychologiquement, on en ressort un peu plus fort aussi pour affronter les épreuves de la vie de tous les jours.
Justement, est-ce que avec toute l'énergie que tu avais, tu aimais l'entraînement ou est-ce que cette souffrance, tu as appris à l'aimer?
Je pense que il y a un peu des deux. Moi, ce que j'aime, c'est le dépassement de soi. Donc, le dépassement de soi, c'est tous les jours, j'aimerais être une meilleure version de moi-même, que ce soit sur l'aspect physique ou l'aspect psychologique. Et je pense que si on n'est pas prêt à faire un travail psychologique sur soi-même, on ne peut pas se développer plus physiquement non plus. Et je pense que c'est plutôt c'est plutôt c'est la chose à laquelle je suis à la recherche. Je cherche à être la meilleure version de moi-même sur le plan psychologique et physique. Donc, pour faire de la compétition au plus haut niveau, il faut que je sois constant dans mon travail de tous les jours.
Justement, quand tu es aux États-Unis, que tu es genre 2 mois avant le combat en pleine prépa, dis-moi à quoi ressemble une journée complète d'entraînement, parce qu'il faut de tout, il faut de la technique, que ce soit en strike, en lutte, il faut un cardio de grand malade, il faut quand même garder un certain poids pour ne pas exploser la balance. Comment c'est une journée type?
Une journée type, c'est si je te parle du lundi. Le lundi, on commence avec de la lutte. Donc la lutte du MMA, on va voir quelques transitions, qu'on peut faire différentes transitions entre la partie striking et la partie lutte. Donc ce qu'on peut faire pour potentiellement amener l'adversaire au sol ou juste lutter contre la cage. Donc c'est ce qu'on voit le lundi. Donc l'entraînement, il dure à peu près 1 heure et demie, 2 heures. Ensuite, on a un break, donc on va manger, se reposer, peu importe, on fait un peu ce qu'on veut. On peut aller dans la recovery room, dans la salle pour récupérer, où on a tous les équipements, les physiothérapeutes. Ensuite, le soir, on a un autre entraînement, par exemple de kickboxing, où on va voir la technique de kickboxing, de tout ce qui est stand-up. Et chaque jour, on a un différent programme. Donc, il y a des jours où on a la préparation physique, donc tout ce qui est musculation et performance.
Est-ce que tu pensais que tu supporterais une telle charge de boulot, mais en même temps, tu es allé là-bas pour ça, mais il faut quand même être dans un état d'esprit assez dingue.
Si on te le dit, ouais, aujourd'hui, il faut que tu t'entraînes tous les jours, 2 fois par jour, 2 à 3 fois par jour, au début, tu te dis, ah non, c'est impossible.
Moi, je fais pas.
C'est exactement ce que la plupart des gens ils vont se dire. Mais le corps, il s'adapte à tout. Et je pense que si tu veux être à la tête de haut niveau, tu n'as pas le choix. Donc, on s'entraîne à une cadence à un rythme qui est très, très, très élevé. C'est comme ça, c'est le niveau que ça requiert. Et c'est la discipline surtout, je pense que c'est beaucoup dans la tête. Donc c'est dur, mais c'est faisable. Donc je pense que c'est accessible à tous du moment où on est prêt psychologiquement à faire les sacrifices nécessaires.
Et puis tu as eu cet appel en avril 2022, après tant de boulot, après tant d'investissement, c'est l'UFC qui te téléphone. C'est quoi à ce moment-là dans la tête?
C'était une signature assez particulière pour moi parce que j'avais compris 2 semaines avant. J'avais pas, je pensais pas recevoir l'appel aussi vite. J'étais super content. Je partais en vacances à Los Angeles. J'ai atterri le soir d'avant et à 6h30 du matin, j'ai reçu l'appel de l'UFC. À 9h30 du matin, j'étais dans l'avion pour Vegas.
C'est toujours un peu le cœur qui palpitait, non?
Ouais, j'ai pas. En fait, j'allais pour Los Angeles pour la première fois, donc j'avais pas encore vu LA et j'ai toujours pas vu LA parce que, en fait, on m'a appelé pour du travail, pour le travail que j'ai toujours voulu avoir. Les opportunités, quand elles sont là, il faut savoir les saisir du moment où elles sont bonnes.
Puis après, quand tu entres dans cette grande machine, c'est hallucinant. C'est vraiment. Moi, je compare ça à la NBA du MMA.
Exactement.
Au niveau marketing, c'est une machine. Au niveau exposition médiatique, c'est une machine. Et même en Europe, hein, même chez nous, je vois. Moi, je m'y intéresse depuis quelques temps parce que je suis Volcan depuis pas mal de temps. Et
Ouais,
les gamins de 20 ans aujourd'hui, c'est presque plus important que le foot ou quoi. C'est
ouais. Ouais, ouais,
pas quand ensuite la monstruosité de cette organisation.
ouais. C'est une bonne chose. Je pense que c'est bien aussi. Et moi, j'encourage les médias aussi à faire leurs recherches et faire le travail correctement, mettre de la lumière sur tous les plans et tous les aspects que peuvent apporter le MMA. Et c'est comme j'ai dit, ça a toujours été un manque de connaissances qui fait qu'en Suisse, le sport, il n'est pas aussi suivi. Mais maintenant que les gens ils voient à quel point c'est gros et comment le sport il est structuré, je pense que ces choses elles sont en train de changer gentiment dans le bon sens. Et moi, je pense que c'est une bonne chose parce qu'on va aussi se rendre compte à quel point on a de gros athlètes en Suisse.
Et au niveau financier, tu as dû basculer quand même dans un autre monde. On sait que c'est pas un joueur de basket qui signe pour plus gros contrat, hein, et puis que c'est évolutif selon la carrière en UFC, mais ça t'a permis de voir venir alors que tu as dû investir pas mal en début de carrière, j'imagine.
C'est ça en fait. C'est un sport encore qui est grandissant. Donc, il y a énormément de sacrifices à faire avant et beaucoup de lâches en cours de route parce que, ben voilà, il y a la vie derrière. Tu vois, des fois, tu as une famille, tu as une femme, des enfants, tu dois t'en occuper. Et moi, quand j'ai commencé le sport, je ne pouvais pas en vivre. Tu vois, même quand j'ai tourné pro, c'était difficile d'en vivre parce que c'est un sport quand tu combats dans des petites organisations. Tu n'es pas rémunéré encore, je dirais, à ta juste valeur. Mais elles n'ont pas encore le budget suffisant pour pouvoir faire que les athlètes puissent en vivre. Donc, avant de signer dans une major league, c'est du chemin. Donc, il faut croire en ses rêves. Donc, moi, j'ai toujours cru en moi. J'ai toujours su où j'allais finir. Et ce qui m'a permis de rester forme malgré les années difficiles où j'ai dû travailler et me dire que ça va finalement payer un jour. Donc, c'est ce qui est le cas. Et je pense qu'on est vraiment qu'au début de l'aventure. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui arrivent. Et je me réjouis d'avoir les prochaines épreuves sous les yeux.
Parlons un peu de ce qu'il y a avant cette UFC. Du coup, tu es arrivé en Suisse à 5 ans. Est-ce que tu te rappelles un peu de ta jeunesse au Congo? Rien du tout.
Partiellement, un tout petit peu. Un peu. C'est drôle, quand je retourne là-bas, il y a des gens qui me disent « Ah, tu te souviens pas de moi? Moi, je te prenais dans mes bras. J'avais 5 ans. Je me rappelle de très peu de choses. Mais j'ai quelques souvenirs, donc ça me fait toujours du bien d'aller là-bas et de revoir où est-ce que j'ai grandi, etc. Mais très peu, donc la majorité de ma vie, je l'ai passée en Suisse. Mais j'ai quelques souvenirs aussi de ma jeunesse au Congo. Ouais.
Et tu te rappelles quand vous avez débarqué, parce que alors qu'on arrive en Suisse, c'est pas la même chose, tu arrives à Renan ou à La Chaux-de-Fonds, avec ta famille, ça a dû être un petit choc des civilisations.
Pour moi, ça n'a pas été un choc. Pourquoi? Parce que j'étais très jeune. Donc, ça m'a. Je pense pas, j'ai pas vraiment été perturbé. Mes frères et sœurs étaient un peu plus âgés que moi. Peut-être que pour eux, c'était un peu plus. Il y avait une grosse différence de paysage, de culture. Mais pour moi, en fait, je me suis toujours senti. Enfin, ça n'a pas changé grand-chose.
Et puis après, bah, à La Chaux-de-Fonds, comment on se retrouve à commencer à se préparer pour des combats? On sait qu'il y a quand même Nelson Carvalho qui est un grand Manitou dans le coin et qui a amené beaucoup de combattants à haut niveau.
Voilà, moi j'ai commencé avec la Fight Combo Academy, c'est là-bas où j'ai vraiment fait mes débuts. Nelson Carvalho, c'était mon coach. Donc il m'a suivi dans tout mon parcours amateur et dans mes débuts professionnels. Et pareil pour Volcan, c'est là-bas qu'on a évolué, qu'on a fait nos débuts. Donc nos bases, elles sont de là-bas. Et ensuite on a évolué chacun de notre côté, moi comme Volcan, dans nos carrières respectives.
Tu disais que tu étais un striker, bah comme Volcan. Est-ce que c'est vos caractères qui veulent ça, ou est-ce que c'est l'école de la
C'est
Fight
l'école,
Move
c'est
qui
l'école,
corrige
c'est l'école,
ce
c'est
style?
l'école. C'est l'école d'où on vient, c'est comme ça qu'on a commencé. Et après, on s'est spécialisé dans différentes choses. Donc, on a dû aussi, bien sûr, apprendre tout ce qui est lutte, grappling, etc.
Et le but maintenant, c'est quoi? De progresser dans là où tu es le plus fort, ou c'est d'essayer de devenir bon partout?
Le but, c'est toujours d'être le combattant le plus complet possible. J'essaie d'évoluer dans tous les aspects du sport. Le travail, il est constant. Moi, je suis un étudiant du game. Je suis toujours à, j'apprends tous les jours. Et je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Donc, le but, c'est toujours devenir le meilleur. Donc, je suis prêt à évoluer dans tous les aspects du sport et même dans ceux où je maîtrise moins que le striking.
Toi, t'es bien plus jeune que moi, mais moi, vraiment, le truc qui m'a fait aimer les sports de combat, bon, il y a eu la boxe, hein, comme tout le monde, les grands shows. Moi, j'ai même vu Mike Tyson quand j'étais gamin. Après, il y a eu surtout la révélation du K1, qui sort un peu d'ancêtre du MMA, vu le marketing et l'ampleur médiatique que ça avait pris. Toi, quelles sont tes idoles, tes inspirations? D'où te vient ce goût pour cette discipline?
Alors moi, mon fighter favori, c'est Mike Tyson. Vraiment, j'admire beaucoup le personnage. J'admire ce qu'il a fait pour la boxe. Il a une histoire particulière. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Mohamed Ali aussi. Donc là, je te cite des noms qui sont même pas dans le MMA. Mais c'est des gens qui m'inspiraient avant même que je commence les sports de combat. Et c'est des gens que je suivais. Comme je dis, j'ai toujours aimé les arts martiaux, les sports de combat. Donc, c'est des gens que je prenais déjà pour exemple. Et me retrouver dans les sports de combat, en fait, ça reste des références pour moi. Donc, j'en ai aussi bien sûr dans le MMA, mais c'est vraiment deux icônes qui ont marqué les sports de combat pour moi.
J'aimerais revenir un peu sur ta relation avec Volkan parce que j'ai l'impression que c'est vraiment une sorte de fil rouge dans ta carrière. Bah lui, il a ouvert quelques portes. Est-ce que déjà tu pensais qu'aller à l'UFC, c'était possible avant qu'un fribourgeois pousse la porte, quoi?
Compliqué, très compliqué. Volkan, d'ailleurs, je l'ai vu juste avant, là, il vient d'arriver à l'hôtel. Compliqué, compliqué. C'était dur d'y croire parce que, voilà, comme j'ai dit, moi, de toute façon, j'ai commencé le sport sans aucune prétention. Je pensais pas, enfin, je connaissais pas mes qualités avant qu'on me les révèle. Et comme je dis, tout s'est fait naturellement. Et après, quand j'ai commencé à me dire que moi-même, je veux ça pour moi et que j'en ai les capacités, et voir Volkan partir aux États-Unis, je me dis que, OK, il est en train de faire quelque chose de différent, signer à l'UFC. Là, je me suis dit, OK, c'est possible pour moi aussi. Et c'est comme ça que j'ai suivi Volkan aux États-Unis pour potentiellement moi aussi avoir le même parcours, si ce n'est mieux. Donc, Volkan, pour moi, c'est un exemple. Ça a été un exemple, ça a toujours été un exemple, c'est toujours un exemple. Et c'est vraiment lui qui m'a ouvert, entre guillemets, les portes et qui m'a aussi permis d'y croire. Donc, j'espère que moi et lui, on pourra aussi donner de l'espoir à la future génération en Suisse.
Est-ce qu'on peut expliquer quand même le parcours nécessaire? Parce que bon, il y a une bonne formation à la Fight Move Academy, mais après, si tu veux vraiment toucher le plus haut niveau, il n'y a pas de choix, il faut se tirer.
Y a toujours un choix. Y a toujours un choix. En Suisse, je pense que c'est faisable. C'est les mentalités qu'il faut changer en Suisse. En Suisse, je pense qu'on ne prend pas encore le sport assez au sérieux. Il y a des gens qui croient encore qu'en Suisse, quand on fait du MMA professionnel, c'est un hobby. Si tu fais du MMA professionnel, ce n'est pas un hobby. C'est un sport à part entière. L'aspect financier ne détermine pas le professionnalisme. Je pense que les gens, en fait, quand on te dit que tu fais du MMA professionnel, mais que tu ne vis pas de ça, ils ne te prennent pas en sérieux parce qu'ils se disent que tu ne gagnes pas de ça ta vie. Et quand je pense que les mentalités vont évoluer en Suisse, je pense qu'on pourra créer d'autres infrastructures et encadrer mieux les gens qui s'entraînent et créer quelque chose de similaire à ce qu'on retrouve aux États-Unis. Et je pense qu'on n'aura plus besoin de se déplacer aussi loin parce que je pense qu'en Suisse, on a tout. On a les athlètes. Ils sont là. Moi, je le sais. Je l'ai vu de mes yeux. J'ai vu qu'il y a des gros athlètes en Suisse qui ont le potentiel et la possibilité d'entraîner le plus haut niveau. Mais ça commence par changer les mentalités déjà.
C'est un truc qui t'intéressera à moyen ou long terme de
Totalement.
voir.
Totalement, totalement, totalement. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire et que j'envisage de faire dans un futur proche. C'est vraiment montrer aux gens que la Suisse, c'est une nation qui a énormément de potentiel. Il faut juste changer les mentalités et développer les infrastructures pour. Et je pense qu'on aura beaucoup, beaucoup plus de monde dans les plus grosses organisations du monde.
Bon, raconte-moi maintenant un peu comment t'as vécu cette arrivée aux États-Unis, parce que quand tu, nous on en revient, hein, mais quand tu pars de la Chaux-de-Fonds et que t'arrives aux États-Unis avec une culture sport qui est complètement différente, parce que là-bas, être sportif, c'est un vrai métier, tandis que
Exactement.
en Suisse, même des fois au caillou, au footballeur, on ne prend pas trop au sérieux. Et tu arrives là-bas avec une toute autre culture, que ce soit dans la vie ou dans le sport. Est-ce que tu as eu besoin de t'adapter ou tu t'es senti chez toi?
Ce que j'ai beaucoup aimé quand je suis arrivé ici, c'était, comme je dis, c'est l'aspect professionnel. Moi, je me suis senti directement à la maison parce que je me suis dit, ils me prennent au sérieux ici, ils savent où je veux aller, ils savent ce que je veux. Tu vois, ils me regardent, ils me posent pas de questions, ils me disent pas, tu fais quoi à côté? T'es là pour faire du MMA professionnel, ok, on va travailler. Et on bosse. Et c'est comme un boulot comme un autre. Il n'y a pas de, oh, aujourd'hui j'ai mal à la tête, je ne vais pas m'entraîner. On n'est pas dans une salle, ce n'est pas un abonnement de fitness. C'est un travail comme un autre. Donc il faut le prendre comme un autre, il faut être professionnel comme dans tous les travails. Et c'est ce qui m'a, ce que j'avais besoin, c'est ce dont j'avais besoin, pardon. Donc c'est ce qui m'a permis aussi de pouvoir me focus un peu plus sur le sport.
Et dans la vie de tous les jours aux États-Unis, est-ce qu'il y a besoin de s'adapter? Parce que, en fait, c'est ce qu'on voit souvent à la télé, ce qu'on écoute comme musique, ce qu'on voit. Après, c'est l'impression d'être dans une série télé toute la journée, quoi.
Ouais, les États-Unis. Après, moi, je suis tombé à Miami, en Floride. Tu t'adaptes très vite en Floride. Tu vois, tu as l'impression d'être en vacances. Il fait beau, il fait chaud là-bas. Donc, le climat est bon. On n'est pas à plaindre là-bas à Miami. Mais la culture est différente, c'est sûr. Mais moi, je suis. Quand tu viens avec un objectif, tu sais pourquoi tu viens et je suis venu que pour une seule chose. Après, s'il y a du bénéfice à avoir, il y en a. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc là, je suis content. Il y avait beaucoup de belles choses à apprendre là-bas en Floride. La culture est très, 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 très belle. Et je me sens à la maison là-bas. Donc je suis content de l'endroit où j'ai pu atterrir.
C'est vraiment ça, un truc que moi je peux pas savoir. Je suis suisse, j'habite en Suisse. Toi, tu es neuchâtelois congolais aux États-Unis. En fait, ta maison, c'est un peu partout.
Ma maison, c'est un peu partout. Je suis un peu partout chez moi. En France, je suis chez moi. On est pratiquement à domicile. Donc, ici, pour moi, je suis presque en Suisse. Je suis comme en Suisse. Donc, c'est un peu partout chez moi. Je suis content de pouvoir toucher un peu à tous ces pays et de pouvoir d'avoir la chance de toucher à toutes ces cultures.
C'est quoi, ça vient de ton caractère, ça, ou ça vient de ton éducation, tu penses? Parce qu'il y a des gens qui ont quand même de la peine à sortir de chez eux, ils ont de la peine à aller voir ailleurs. Et toi, j'ai l'impression que c'est un peu naturel.
Ça vient totalement de mon caractère. Moi, je suis une personne qui a pas peur de la solitude, même si voilà, c'est pas facile d'être loin de sa famille. Pour moi, c'était vraiment ça le plus dur. Mais aujourd'hui, on m'a dit, avant de partir en Floride, on m'a dit, tu pars demain. J'ai tout fait pour partir demain. Donc, il n'y a rien qui m'a freiné dans ça. Parce que quand tu as les objectifs, et plus ils sont gros, plus tu auras de sacrifices à faire. Donc, au final, tu sais pourquoi tu le fais. Ta famille, elle sait pourquoi tu le fais. Et voilà, s'entourer des bonnes personnes. Ma famille, elle m'a toujours soutenu. On reste en contact tous les jours, quoi qu'il arrive. On essaie de rester le plus connecté possible. Et voilà, les sacrifices à faire, ils sont faits pour une raison. Et ça va payer un jour. Donc, moi, j'ai toujours été comme ça. Mon caractère, j'ai toujours eu. Ça a toujours été naturel, en fait, pour moi, de faire ce que je veux faire et je le fais à fond.
Ta famille, bah, elle te connaît, elle connaît tes capacités et tout, donc elle pouvait croire en toi naturellement, mais tes potes, ils t'ont pas pris pour un peu pour un fou.
Ben non, parce que moi, comme j'ai toujours dit, les amis, on n'en a pas énormément. Il faut avoir un cercle qui est assez restreint parce que c'est important d'avoir des gens vraiment sur qui tu peux compter dans tous les moments, les bons comme les mauvais. Et beaucoup d'amis que j'ai toujours aujourd'hui, avec qui j'ai grandi, ils ont toujours cru en moi. Même quand j'étais en amateur, de se dire, hey, mais toi, tu devrais aller en pro, tout ça. Et il y a des gens comme mes frères et sœurs. Surtout mes deux grands frères qui ont cru plus en moi que moi-même, si je peux dire ça comme ça, avant que moi-même je réalise que j'ai le potentiel d'aller aussi loin. Et c'est plus eux-mêmes qui m'ont poussé à aller aux États-Unis, mais pas pour un séjour, pour y rester. Donc, hey, prends ton ticket et pars, tu vois, t'as rien à faire ici. Donc, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière.
Pour finir, j'ai envie de parler du ressenti, parce que la cage, c'est vraiment quelque chose de très spécial. Moi, je suis allé voir 3-4 fois des réunions de MMA, et c'est vraiment super impressionnant, même quand tu es en dehors. Qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu te prépares, quand tu fais le chemin, quand tu as ce spotlight sur la gueule, en train d'entrer devant des milliers de personnes, qu'est-ce qui se passe dans la tête, dans le corps à ce moment-là?
La cage, on la connaît. On la connaît par cœur. On s'entraîne tous les jours dans la cage. On essaie de simuler le combat le plus possible. Après, le combat est différent. Il y a une atmosphère qui est super électrique quand tu rentres dans une arena. Surtout quand t'as 20 000 personnes qui sont là. C'est un peu différent. Mais faut être capable de contrôler ses émotions. L'énergie qu'il y a à prendre, il faut savoir la prendre le mieux possible. Elle peut t'avantager comme te désavantager. Donc, il faut juste rester focus sur ton fight. Et voilà. Après, c'est très personnel parce qu'il y a des gens qui ressentent cette énergie de manière assez différente. Mais moi, je suis extrêmement heureux de combattre devant mon public, entre guillemets. Donc, ça me donne encore plus d'énergie. Mais malgré ça, je reste focus sur mon fight.
Est-ce qu'il y a un niveau de peur acceptable? Genre, la peur du
la
monde.
La peur, c'est une émotion qui est normale. La peur, c'est une émotion qui est normale. Et je pense que c'est une émotion qui est obligatoire pour ce genre de sport, pour tout sport, pour tout ce qu'on fait dans la vie. Parce que si tu as peur de rien, tu fais des choses un petit peu insensées. Bien sûr, j'ai peur de ne pas performer comme je veux performer. Mais le truc, c'est que toutes ces émotions qui viennent en même temps, il faut être juste capable de les contrôler et de les avoir. C'est une balance, en fait. Tu ne peux pas te laisser envahir par la peur. Mais tu dois savoir que cette émotion, elle est présente. Donc, c'est la capacité de contrôler ces émotions.
J'ai l'impression que tu as plus peur de ta prestation que de l'adversaire, en fait.
Ah, l'adversaire, je n'ai pas peur d'adversaire. J'ai peur de personne. J'ai peur d'aucun être humain sur Terre. Donc, j'estime que je m'entraîne dur. Et je veux tout faire pour m'entraîner plus dur que tout le monde pour devenir la meilleure version de moi-même, parce que avant tout c'est un combat contre moi-même avant de faire un combat contre une autre personne. Donc c'est plus psychologique qu'autre chose. Donc quand je sais que je suis vraiment au top, je me dis que je suis instoppable et que je peux battre tout le monde.
Du coup, il n'y a pas tellement de peur de la défaite, parce que tu peux être la meilleure version de toi-même mais trouver plus fort.
Ouais, exactement. Donc moi, c'est le but, c'est toujours de tout donner, de donner tout ce qu'on a, et je pense que c'est ça qui fait que tu peux évoluer tu peux que évoluer dans le bon sens, peu importe le résultat. Bien sûr, le résultat qu'on recherche, c'est la victoire, et que la victoire. Donc moi, l'important, c'est pas de participer. Si je m'entraîne au 7e, c'est pour gagner. Mais ça, c'est mon esprit de compétition, parce que je cherche à devenir le numéro 1. Donc pour être le numéro 1, il faut performer, il faut gagner.
Dans le même temps, tu fais le sport que t'aimes, t'es bon, tu gagnes ta vie avec, et t'as même tu sembles vouloir t'inscrire dans un futur avec ce sport. En gros, c'est le bonheur, quoi.
C'est le bonheur. Moi, je vis de mes rêves, donc je fais le job que j'aime. Et moi, pour moi, c'est le plus important, parce que ça, le parcours, il a été long, il est encore long, mais il y a des sacrifices à faire, et il y en aura encore plus à faire. Et je vais continuer à faire les sacrifices qu'il faut faire pour obtenir ce que je recherche.
Ma dernière question, elle sera simple. Si tu as un parent qui vient vers toi en disant « Ouais, mon gamin, il regarde du MMA, il veut faire du MMA, j'ai un peu peur », qu'est-ce que tu lui répondrais pour dire que non, c'est pas un truc de grand malade, c'est
moi, j'invite un vrai ses parents, sport. J'invite ses parents-là à venir dans une salle de MMA. Et voir comment se déroulent les entraînements, et je suis prêt à investir de mon temps à expliquer, et aussi à montrer que le MMA, c'est un sport à part entière.